phase 2.
Aujourd'hui, on vous amène dans le 8e arrondissement de Paris. On a rendez-vous au cabinet de maître Éric Dupond-Moretti.
Oui, bonjour, c'est la RTS.
Oui, troisième étage gauche.
Merci.
Une belle conversation, pour moi, c'est une conversation qui a du sens.
La conversation.
Les Suisses sont là.
Quelle imitation. Extraordinaire.
Comment ça va?
Bonjour.
Bonjour, maître.
Je me réjouis de vous voir.
La conversation, finalement, c'est la meilleure thérapie du siècle.
Vous voulez qu'on se mette comment?
Voilà, ça peut être sympa.
Là, c'est bien.
Est-ce que vous voulez voir? Conversation. Bertrand Pichot.
Bertrand Pichot.
Alexandre Lemierre.
Alexandre Lemierre.
Vous voulez conduire, ça?
Non, ça va, c'est le
parcours. Non, pas du tout, je ne joue pas aux échecs, il manque des pièces et c'est mon associé qui m'a fait ce cadeau. C'est un jeu d'échecs.
Arrêtez.
Non, attendez, c'est un jeu d'échecs, non, mais qui appartenait à Jacques Vergès. Voilà.
Bonjour, je suis Éric Dupond-Moretti et je suis dans la conversation.
Défendre la liberté est le moteur de mon action. Voilà comment Éric Dupond-Moretti défend librement la principale motivation qui quotidiennement le fait se lever contre les injustices, marcher, parfois dans la salle des pas perdus, penser à la meilleure stratégie pour gagner, parler de sa voix grave et puissante, et s'énerver aussi souvent face à une société dans laquelle il se sent de moins en moins en liberté. Il aime citer Casamayor, ce magistrat et écrivain, lorsqu'il disait que « la justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu, un constat que l'on ne peut que qualifier d'aussi pertinent que triste. » Pour lui, aucun homme, quoi qu'il ait commis, n'est indéfendable. C'est l'idée qu'il défend. Car défendre un homme n'est en rien défendre sa cause, si condamnable soit-elle. Et pour cause, c'est l'homme qui est condamné et non l'acte en lui-même. Un acte en prison, ça ne s'est jamais vu. Ton acte. Son enfance, c'est dans le nord de la France qu'il l'a traversée non sans encombre. Il perd son père à 4 ans et demi et trouve auprès d'une grand-mère remarquable et admirable de quoi se forger une vie sur la base de valeurs qu'il a fait peu à peu sienne, constitutif, peut-être tel indu, de l'homme qu'il est aujourd'hui devenu. Lui qui s'est construit en faisant mille et un petits boulots de surveillant à maçon, de serveur à fossoyeur. Si on le connaît et si on le reconnaît, c'est à sa prestance physique, son imposant charisme et sa prégnante éloquence. En ce sens, il ferait sens de le comparer à un artiste lorsqu'il utilise ses mots comme des notes ou des couleurs, ses idées comme des mélodies ou des formes harmonieuses, et c'est seul en scène qu'il interprète ses créations telles des performances ayant pour ultime volonté, on y revient, la défense de la liberté. Mais c'est aussi à un artisan qu'il fait penser tant on le sent passionné, épris éperdument de sa mission, ayant année après année cultivé son savoir-faire. Certains l'ont surnommé à raison, acquittateur, et si on a beau trouver que ce mot est laid, il faut pourtant dire qu'il est vrai, avec ses plus de 140 acquittements. Si cet homme a de l'appétit pour les mots tout autant que pour certains silences, et de l'appétence pour leur puissance lorsqu'ils sont maniés comme il le fait avec nuance et aisance, il n'en est pas moins un réel gourmet, ce que d'aucuns appellent un homme bon vivant. Plein de vie, il l'est, indigné souvent, excessif parfois, un gourmand peut-être même boulimique de travail. « J'ai gagné des affaires ingagnables », a-t-il écrit un jour, « j'en ai aussi perdu d'imperdables. L'aléa judiciaire est terrifiant. La justice, seuls ceux qui ne l'ont pas expérimentée ont encore confiance en elle. » On ne peut parler de liberté sans liberté de parole. Et c'est donc ainsi que le voici maintenant, avec sa libre parole, le temps d'une conversation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez La Conversation avec aujourd'hui Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Très bien. Je vous ai vu prendre des notes pendant l'intro, c'est un réflexe que vous avez ou...
Oui.
Elles resteront confidentielles, c'est pour vous ou...
Peut-être pas, j'exprimerai peut-être tout à l'heure ce que j'ai gribouillé et ce qui n'a pas échappé à votre regard. On verra, ça dépend des questions que vous me poserez. Si vous tombez pile sur mes notes, d'une certaine façon,
on fera un point
vous
à
aurez
la
une
fin.
Réponse orale. Oui.
Je suis les yeux des auditeurs, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu où nous sommes, donc dans votre bureau? Très confortable, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant, des fauteuils en cuir. C'est joli, calme.
Oui, je suis assez d'accord avec votre
épuré.
Description. C'est des bureaux d'inspiration haussmannienne dans laquelle on retrouve mes petites histoires, c'est-à-dire beaucoup de rappels de la fauconnerie. Voilà, un bureau Louis XV, puis des choses un peu plus modernes. Voilà. Et quelques photographies des gens qui me sont proches et qui, évidemment, me sont chers.
Est-ce qu'on peut dire qu'une plaidoirie réellement incarnée, finalement, dit peut-être autant de l'avocat que de la personne qu'il défend?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que l'on est ce que l'on plaide et on plaide ce que l'on est.
Donc vous êtes multiple quand on regarde votre carrière.
Je parle évidemment de la forme et des arguments. Ouais. Il y a quelque chose d'assez impressionnant. Un homme qui serait défendu par deux avocats différents ne serait pas défendu de la même façon. Tant il est vrai d'ailleurs que quand on regarde l'autre, on le regarde sous le prisme de ce que l'on est soi-même. Donc on va chercher chez l'autre des qualités qui nous intéressent, des défauts qui nous intéressent également. Et l'autre avocat chargé de défendre le même homme n'y verra pas la même chose.
Je propose qu'on se plonge dans votre carrière, Éric Dupond-Moretti, avec votre portrait sonore signé Alexandre Lemierre.
Tout ça ne vaut pas
le clair de lune à Maubeuge.
Hier j'ai dit à un animal de flic qui me voulait du mal, je suis orphelin, savez-vous? Il me répondit, je m'en fous. J'aurais eu 40 ans de moins, je suis sûr que par les témoins, la brute aurait été mouchée, mais ces lâches n'ont pas bougé. L'orphelin d'âge canonique, personne ne le plaint, Bernique. Et pour tout le monde, il demeure orphelin de la 11e heure.
La justice des hommes est passée. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing n'a pas accordé sa grâce. Christian Ranucci, 21 ans, a été décapité à l'aube, à la prison des Baumettes à Marseille.
Tribunal de Lille, Quentin Lebas est un jeune avocat, mais aujourd'hui il ne plaide pas.
Quel honneur c'est pour moi, monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, de me lever devant vous. Revêtu de cette robe.
Devant un jury de magistrats, il participe au concours d'éloquence, épreuve prestigieuse de la profession. Objectif, convaincre le jury.
Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Monsieur Zamouni Abdelkader, c'est bien ça? 27 condamnations pour vol.
Le prochain est prêt.
Je ne suis pas rentré à Rouen ce mois-ci.
Si vous avez une problématique de droit du travail, je vous conseille fortement de choisir un avocat dont la dominante est le droit du travail.
En France, épilogue judiciaire à partir de demain du feuilleton de l'été 93 de l'affaire VAOM. Le procès devrait durer 10 jours avec un face-à-face très attendu entre le procureur Éric de Montgolfier et le principal prévenu Bernard Tapie. Mise en examen, je vous le rappelle, pour corruption active et subornation de témoins.
Mesdames et messieurs les jurés,
je dirais que la justice des hommes est passée.
La présidente a dit que ça n'était pas un acquittement au bénéfice du doute, que la cour d'assises avait exclu l'existence d'une charge et surtout...
Jurez-vous de dire la vérité?
10 mois après l'assassinat du préfet de Corse, Claude Erignac, l'enquête progresse selon son successeur Bernard Bonnet après de nombreux...
Jurez-vous de dire la vérité?
Avocat brillant, plus jeune bâtonnier de France à 35 ans, 1985, Vincent Stanière a connu une carrière jalonnée par tous les procès nationalistes.
Jurez-vous de dire la vérité?
L'avocat a alors profité de l'incroyable disparition du dossier d'instruction pour faire libérer Hendrick.
Puisque nous n'avions plus que la copie de ce dossier, j'ai donc pensé que la copie du dossier n'était pas suffisante
pour que l'on ait la certitude de la légalité des pièces permettant l'incarcération de mon client Francis Hendrick.
Je requiers la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre. C'est pas lui.
On estime que ça n'est pas une victoire de la défense, mais que c'est une réelle victoire de la justice parce que cette décision est équilibrée. Elle rappelle évidemment la gravité des faits, elle rappelle le mensonge de Jérôme Cahuzac, elle rappelle sa responsabilité dans toute sa...
L'un des attraits de mon métier, c'est que l'on peut aujourd'hui défendre un prince saoudien et le lendemain un malheureux.
On vient pas ici pour démontrer son innocence, elle est acquise. Il n'y a rien dans le dossier.
C'est déjà fait.
On vient ici pour dire un certain nombre de choses et pour dire notre exaspération totale. Et vous serez les témoins de ce que cette affaire du trop maintenant n'a que trop duré.
Mesdames et messieurs les jurés,
plus personne ne pourra sous-entendre, plus personne ne pourra suggérer la culpabilité de Jacques Villiers. Je voudrais simplement vous dire que la cour d'assises du Tarn n'a pas manqué ce soir son rendez-vous avec la justice.
Monsieur Belkany,
vous présentez
à
Tata Kéjas. Je cherche le maître du Pont-Moretti. Il est là-bas.
À supposer même qu'il est radicalisé. C'est-à-dire qu'il est contaminé d'une certaine façon, son frère. Ça ne fait pas de lui un complice d'assassinat. Ça n'est pas ça, la complicité d'assassinat dans notre droit.
Que les victimes ne comprennent même pas qu'Abdelkader Merah puisse être défendu, j'en accepte l'augure. Mais pas vous, monsieur Demand, pas vous. Si vous déniez à cette mère le fait d'être une mère, alors...
Je requiers la réclusion criminelle à perpétuité.
C'est pas lui.
Il y a aussi une quête permanente de séduction, de reconnaissance. On ne s'expose pas publiquement par hasard. Si on le fait, c'est qu'on a besoin d'une forme de reconnaissance, très narcissique, évidemment. Parce que c'est ça la réalité de l'avocat, bien sûr. Continuer à être désigné... Je devrais presque dire en subliminal à être désiré.
La réalité de l'avocat, c'est de continuer à être désiré. Ça peut faire penser au métier de comédien. D'ailleurs, vous l'êtes un peu. Vous êtes sur scène en ce moment. Vous avez vu un peu au cinéma. J'imagine que parallèlement à l'importance primordiale lors d'une plaidoirie du contenu, il y a l'interprétation, la voix. Là encore, point commun important avec le comédien. Est-ce que vous la travaillez, cette voix? Est-ce que vous en prenez
soin? Oui, je l'ai beaucoup travaillé en picolant et en fumant.
Ça marche, donc.
Et d'ailleurs, dans cette rétrospective drôle et parfois émouvante, j'ai constaté à quel point j'avais plus la même voix que quand j'étais jeune.
Elle a évolué, hein.
Ouais.
Vive l'alcool et le tabac.
Vive l'alcool et le tabac.
On gagne en profondeur, en tout cas en profondeur de tessiture.
En profondeur de tessiture.
Il y a une femme importante au départ de votre vie, vous en parlez dans vos ouvrages, c'est votre grand-mère Louise, une femme courageuse. Vous racontez même qu'elle avait sauté en parachute pendant la Deuxième Guerre. C'était une juste, elle a caché des enfants juifs. Une cuisinière aussi exceptionnelle, une talentueuse cruciverbiste. Finalement, on ne peut que constater les points communs qu'il y a entre elle et vous, et l'homme que vous êtes devenu. On retrouve cette personnalité avec de fortes convictions, la volonté farouche de défendre ceux qui en ont besoin, un hédonisme gastronomique, on peut dire ça. Et puis au cœur de tout cela, un amour des mots.
Oui, on est le fruit de son histoire. Tout à l'heure, dans les prolégomènes qui annonçaient notre conversation, quelqu'un disait à quel point l'échange était important dans la conversation, et les mots sont pacificateurs. Plus on a de mots, plus on peut exprimer de choses nuancées, et donc de choses intelligentes, ce qui n'exclut pas parfois de dire des conneries. Mais en tous les cas, la vertu du mot, c'est de pacifier les choses. Et quand on n'a plus de mots, on quitte la conversation pour aller vers l'agression parfois. En ce sens, c'est fondateur, c'est essentiel. Et moi, je suis terrorisé de voir que les gamins ne savent plus lire et écrire. Les taux d'analphabétisme sont grandissants sans cesse. Et certains quartiers dans mon pays sont des quartiers qui sont privés de culture.
Et ça réduit la pensée, c'est ce que vous dites. Moins on a de mots, moins on peut concevoir une idée, moins on peut l'exprimer.
La développer, bien sûr. Moins on est accessible à l'autre aussi dans sa pensée, si elle est contradictoire ou convergente d'ailleurs. Mais C'est un des très grands problèmes. On essaie de régler ces questions-là à coup d'économie, au fond, mais il n'y a pas que ça. La culture, les mots, l'échange, la déliquescence de notre langue sont des phénomènes qui m'inquiètent beaucoup.
Vous dites que les mots servent à pacifier. Tout dépend qui les utilise. Finalement, ce n'est qu'un outil. C'est ce qu'on peut voir et entendre en politique. Il y a des gens extrêmement brillants, cultivés, qui manient très bien le mot pour défendre des idées très nauséabondes.
Sans doute, mais quand vous n'avez pas la chance d'avoir le volume lexical suffisant,
le choix ne s'offre même pas de...
Vous marchez sur les pieds de quelqu'un, vous lui dites pas pardon. Vous lui dites quoi ? Nique ta mère. Et ça, c'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs... Moi, j'ai beaucoup constaté dans ma vie professionnelle que des gamins, parfois, ne parlent plus ou ne parlent pas la même langue que nous. Et ça renforce aussi...
La fracture, la séparation,
bien sûr.
La stigmatisation.
La stigmatisation, la fracture, tout ce que vous venez de dire, évidemment.
Comment on peut résoudre cela ?
En proposant de la culture. Mais une culture qui ne soit pas trop élitiste, qui soit accessible. On n'est pas obligé de diffuser des conneries à la télévision. Enfin, moi, je suis fasciné, par exemple, par ces émissions diffusées très tôt le matin, où on voit des crétins décérébrés enfermés dans une magnifique propriété à Los Angeles.
Et la réalité.
Oui, c'est ça, oui. Et puis l'autre truc, c'est ces réseaux sociaux, là, qui sont devenus une poubelle à ciel ouvert. Et où on peut d'ailleurs s'exprimer anonymement, il n'y a rien de pire que l'anonymat, ça permet tous les excès et toutes les dérives.
Et pourtant, je me fais l'avocat du diable, si vous me permettez cette expression, mais c'est une forme de liberté aussi. L'anonymat, la lâcheté, la calomnie.
Bravo.
Je veux dire, non mais est-ce qu'il faudrait l'interdire?
Non mais est-ce que c'est...
Je ne défends pas la cause, je défends la liberté d'utiliser...
Je veux bien vous concéder que mon propos manque un peu de nuance, mais d'abord ces réseaux sociaux pourraient être, devraient être l'instrument ou l'outil idéal d'une démocratie participative. Hein, on pourrait échanger de jolies choses, ou de moins belles d'ailleurs, en tous les cas échanger, converser. Bon. Mais en réalité, c'est une poubelle à ciel ouvert, en ce sens que c'est la caisse de résonance de haineux, frustrés, toujours anonymes et en quête de tribune. C'est l'invasion des imbéciles, a écrit Umberto Eco, et de ce point de vue, c'est assez vrai. Or, beaucoup de jeunes vont là, sur les réseaux sociaux. Ça peut protéger, oui, l'anonymat, oui, je vous le concède. Pour autant, ça permet aussi l'insulte gratuite, l'expression raciste, tout ce que.
Est-ce que ce n'est pas davantage dans la nature humaine que cet outil qui a généré ça?
Parce qu'en effet, ce n'est qu'un outil,
on peut l'utiliser intelligemment, pacifiquement.
C'est vrai qu'en 42, il y avait déjà des gens qui dénonçaient. Vous voyez, à l'époque où être juif était un crime, il y avait des gens qui... Un ami qui vous voulait du bien, mais fallait faire la lettre, c'était plus difficile. Fallait écrire, fallait la poster. Bon, maintenant on peut même plus faire ça parce qu'il y a de l'ADN, vous voyez, on peut retrouver l'ADN sur la salive. Non, mais il y a une espèce de facilité.
C'est vrai, d'incitation.
Assez déconcertante. Et même d'ailleurs dans l'orthographe de la communication dans les réseaux sociaux, il y a même plus cet effort-là. Donc oui, c'est aussi et c'est surtout pour moi une poubelle à ciel ouvert aujourd'hui. Et d'abord, je pense qu'on devrait interdire. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un censeur, mais on devrait interdire les expressions anonymes. Faut assumer ses propos.
Pour revenir à la télé-réalité, vous avez écrit un jour « C'est la loi du plus fort, le rejet du vulnérable, la sacralisation des vainqueurs et l'ostracisation, d'ailleurs souvent humiliante, des perdants. » Mais ouais. Cette définition colle aussi finalement au fonctionnement de notre société, plus généralement.
Sans doute. Est-ce une bonne valeur ?
C'est parce que
un bon chemin ? Est-ce que c'est une raison ? Non, mais vous savez, les gamins qu'on met en compétition pour devenir stars, par exemple, bon... Et le pic d'audience, c'est quand le numéro 2 vient de perdre tout espoir d'accéder à la starisation. Le numéro 2 s'effondre alors en larmes. Et là, c'est le pic de l'audimat. Et est-ce que ça transmet une valeur qui ne peut pas être relayée au rang d'accessoire, qui est la solidarité. Je pose la question. Mmh.
Mais moi, ce que je soulève, c'est que c'est à l'image du fonctionnement de l'éducation où
bien
on
sûr,
est noté, mais... comparé, on n'incite pas à la solidarité dans une classe. On oppose, on compare.
Oui. Oui, mais sur des critères qui peuvent être aussi des critères d'excellence. On peut pas... Enfin, vous savez, la télé, elle ressemble à notre société, comme la justice, d'ailleurs, ressemble à notre époque. Moi, je suis toujours un peu choqué qu'on puisse faire du buzz et de l'audimat sur du chagrin. Ça me dérange un peu. C'est vrai que filmer en gros plan la vulnérabilité, qui s'exprime souvent par des larmes, c'est quelque chose qui me gêne. Bon, maintenant... On peut toujours se dire que, comme c'est à l'image de tout le reste, eh ben, il faut que les choses restent en l'état.
C'est pas du tout ce que je dis.
C'est ce que l'on pouvait entendre.
D'accord, alors je me suis mal exprimé.
D'accord.
C'était absolument pas l'idée, bien sûr.
D'accord.
Je disais que c'était le résultat de...
Oui, en ce sens, je suis d'accord avec vous, ça ressemble à tout le reste.
Le reste est autant, du coup, peut-être à condamner, à remettre en cause et à redéfinir. Et on en revient à l'éducation tout à l'heure, pour avoir le nombre de mots suffisants pour bien s'exprimer et modifier certains... certainement nombre de valeurs.
Oui.
On va écouter un peu de musique, c'est votre choix, Mélodie Gardot.
Oui.
Baby, I'm Full.
Oui.
Magnifique. Pourquoi ce morceau-là? Pourquoi elle?
Parce que j'aime beaucoup.
C'est suffisant.
C'est une raison suffisante, non?
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
narration, ça n'est pas un monologue. Voilà.
Éric Dupond-Moretti, il y a un sentiment important qui a accompagné votre vie, c'est l'indignation, dont vous dites c'est l'expression d'une frustration nourrie d'épreuves trop lourdes à porter pour un enfant. Alors vous racontez dans différents de vos livres l'histoire de votre famille, côté italien, arrivé en France dans les années 50, qui a subi la xénophobie. Vous racontez l'histoire de votre grand-père, retrouvé vraisemblablement assassiné sur une ligne de chemin de fer, aucune enquête n'a eu lieu. Certains transforment ce mal-être, cette indignation, cette frustration, cette souffrance, l'injustice en rébellion, en délinquance. Est-ce qu'à un moment, ça aurait pu arriver? C'est quelque chose... La tentation s'est présentée pour vous?
Non, je peux pas dire ça. Mais en même temps, je mesure à quel point ce qui distingue l'honnête homme de l'homme malhonnête est parfois ténu. J'ai pas eu la tentation d'aller vers la délinquance parce que j'ai eu la chance de m'accrocher quotidiennement à une forme de réussite scolaire et universitaire. Et donc j'avais un but, c'était de devenir avocat, et j'ai jamais douté. En sens, j'ai une espèce de vocation, comme Clavel a découvert la religion en entrant dans une église, et ça m'a porté. Mais pour le reste... Oui, je peux pas. On ne peut évidemment jurer de rien. Il y a que ceux qui feignent d'ignorer la nature humaine qui peuvent dire moi jamais je ne commettrai. Oui, surtout dans la période de l'adolescence, ça aurait pu. Mais il s'avère que je me suis accroché à mes études, et que donc je n'ai pas eu la tentation du diable.
Il est en vous encore un peu?
Mais oui, il faut qu'il y reste jusqu'à la fin, évidemment.
Vous l'utilisez dans votre travail?
Mais oui, bien sûr. Écoutez, quand on est avocat, on a tout de suite... c'est très curieux, on débarque de la fac et puis on a évidemment quelques idées assez belles sur l'humanité, sur l'amour, sur ces choses. Et puis on est très vite défrisé, je devrais dire même dépucelé, violemment d'ailleurs. On se rend compte que c'est pas si simple que ça et que tout être humain a sa part d'inhumanité. Vergès, il avait une formule assez fantastique. Il disait « Quand un chien déchique une vieille dame, on ne dit pas de lui qu'il est inhumain, car l'inhumain n'appartient qu'à l'humain. » Mais c'est tellement juste. Donc ça, il faut le mesurer très vite pour les autres, que l'on défend, et pour soi, évidemment, on est fait d'ombre, de lumière, de peu de qualités, de beaucoup de défauts. Et c'est à revendiquer haut et fort.
Dans votre livre « Le droit d'être libre », vous citez Montesquieu quand il dit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Est-ce que parfois vous vous méfiez vous-même de votre pouvoir ?
Moi, j'ai pas de pouvoir. Je suis dans la proposition. C'est pour ça que je suis pour la suppression de l'École nationale de la magistrature. Parce qu'un gamin de 23 ans qui est avocat, il est dans une posture d'humilité.
Il faut juste que vous expliquiez. Oui. Que c'est un cas quasi unique en France.
C'est une spécificité française qui s'appelle l'école.
Portugal, voilà, c'est la France en Europe. Les étudiants deviennent juges sans avoir eu un parcours d'avocat avant. Ce qui est le cas partout dans le monde ailleurs.
Quasiment. Partout dans le monde ailleurs et en particulier chez vous. Je connais bien ce système parce que j'ai plaidé beaucoup en Suisse. Et moi, je me bats contre cette école qui encaste les gamins dans un corporatisme dont ils ne sortent jamais. Bon. Et en réalité, quand on a 23 ans et qu'on est avocat, on est dans une posture d'humilité, c'est-à-dire qu'on quémande. Et quand on est juge et que l'on tranche, on est déjà dans une posture d'arrogance. Moi, je n'ai aucun pouvoir. J'arrive, j'essaie de faire mon job. Je le fais parfois bien, je le fais parfois mal. Mais je n'ai pas le pouvoir de décision. Et d'ailleurs, je me méfie comme de la peste du pouvoir. Et pire que cela, ou mieux que cela, j'ai refusé tous les hommages du pouvoir, toutes les décorations, parce que je trouve que sur une robe d'avocat, ça n'a absolument pas lieu d'être. L'avocat doit être un anarchiste. Et moi, je me définis comme tel. C'est-à-dire en même temps un homme d'ordre, parce que les anarchistes aiment l'ordre. Vous savez que Brassens traversait dans les clous pour ne pas être interpellé par les gendarmes. C'est ça la démarche.
La justice, la loi, le métier de juge ou d'avocat, tout cet univers a beaucoup inspiré le 7e art. Je propose une promenade sonore dans quelques classiques traitant de ce sujet.
Moteur.
Arthur, 37 deuxième.
Voyez, t'es un malhonnête homme. T'as complété ton coup avec Clovis.
Il vous fallait un coupable.
Moi, je te dis que les Dominici ne sont pour rien là-dedans.
Moi, je dis que si. Et que c'est spécial. Fais pas de roman, déjà que le commissaire, ça l'empêche de dormir.
Un coupable, oui, mais pas de mobile et pas de preuves.
En vertu de ce jugement, Gaston Dominici est condamné à mort.
Que ceux qui votent coupable veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable ?
Salaud !
La première fois que je vois !
C'est vrai ! Regardez ! Je n'ai pas ma droite et je dis, je le jure ! Je suis maître du rock avant qu'on m'arrête de Paris ! Voici ma robe !
Mon fusil !
N'ouvrez pas ! Je vous en conjure ! C'est l'avocat qui vous parle ! Récapitulons les faits, voulez-vous ?
Faut pas t'énerver, mon pote.
Je m'excuse, monsieur le président, mais la situation est un peu spéciale. Le témoin est ma sœur. Dans la salle, il y a mon neveu et ma fille. Mon cousin est mon adversaire. Et l'accusé est mon futur gendre. Ça devient une affaire de famille, c'est pourquoi je me permets de sortir des formes traditionnelles.
Monsieur Beckett. Ça va ? Qu'est-ce que vous avez à la figure ?
J'ai le sida.
Ah.
Je cherche un avocat pour me défendre.
Vous voulez attaquer Wyant Wheeler, Ellerman, Tetlow et Brown ?
J'aurais perdu une plainte qu'on devait déposer. Ça, c'est leur version.
Bon, Jack, qu'est-ce qu'on a ?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain. Nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108.
Bonjour, inspecteur.
Affaire numéro 1108, prévisualisée par les précogs, enregistrée sur Holosphère par les archives de pré-crime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour, Franck Collard. Bonjour.
Bonjour.
Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant ?
Réponse affirmative, je valide.
Allez-y.
On est prêt.
L'heure du meurtre, 8h04. C'est dans 24 minutes 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge.
La question, pour une fois bien posée, est celle d'un avocat qui croit ou ne croit plus à la vertu de son client. En tout cas, c'est la question qui m'intéresse, moi. C'est une vraie question. Tout le monde sait que pour bien défendre son client, il vaut mieux croire que c'est lui qui a raison. Que c'est lui qui dit la vérité, toute la vérité. Mais tout le monde sait aussi qu'il y a des arrangements avec cette vérité. Comme il y a des arrangements avec sa propre conscience et que l'avocat joue un jeu. Comme nous tous ici, messieurs, puisque tout le monde joue un jeu. Il existe un jeu de la justice, du pouvoir, de l'argent. Et pour bien le jouer, dans la société telle qu'elle est, il est essentiel que tout le monde mente plus ou moins.
On a écouté des extraits de l'affaire de Minici de Claude Bernard Aubert, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, La carapate de Gérard Horry, Les inconnus dans la maison de Henri Decoing, Philadelphia de Jonathan Demme, Minority Report de Steven Spielberg et Rive droite, rive gauche de Philippe Labro avec Gérard Depardieu. Vous écoutiez ces propos visiblement en n'acquiesciant pas. Pas tout à fait d'accord avec...
Non.
D'ailleurs pas du tout quand on vous lit... C'est pas du tout votre version de la vérité.
Je me fiche complètement
de la vérité, vrai.
De la vérité. Et pour moi, seul compte le triomphe de la vérité de celui que je défends. Et mon métier consiste pas à aller chercher la vérité, sûrement pas à juger l'homme que je défends, mais à veiller à ce que ses propos ne soient pas battus en brèche par le bon sens ou par une preuve qui serait rapportée contre lui.
Donc, quelle que soit sa vérité, l'important est qu'elle soit crédible.
Oui.
C'est ça, à vos yeux, qui est important pour pouvoir avoir la peine la plus légère pour lui.
Oui, il va rencontrer dans son parcours judiciaire 20 policiers, 15 magistrats qui tous vont exiger la vérité avec un V majuscule, une vérité factuelle. Moi, je suis pas là pour ça. Et d'ailleurs, on constate que les vérités multiples et plurielles coexistent, et parfois d'ailleurs personne n'est de mauvaise foi, et on constate aujourd'hui, très vite que le contraire de la vérité, c'est pas forcément le mensonge, mais c'est une autre vérité. D'ailleurs, dans un procès, il y a 10 vérités différentes, celle du procureur, celle de la défense, parfois celle des défenses quand il y a plusieurs accusés, la partie civile, les journalistes, tout ça c'est des vérités différentes. Mais
il y a des faits derrière les vérités.
Oui.
Qui parfois ne sont pas connus.
Oui, bien sûr.
La méconnaissance de ces faits, dans votre cas, pour...
Moi, je ne dirais pas la méconnaissance de ces faits.
Leur absence.
Je dirais l'absence de preuves. Ouais.
Tant qu'il n'y a pas de preuves, le bénéfice du doute doit l'emporter.
Ben oui.
J'ai une question qu'on a dû vous poser 1000 fois, pardon, mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un conflit intérieur chez vous entre votre opinion personnelle, vos convictions et ce que votre métier vous amène à faire ?
Écoutez, s'il y a conflit intérieur, il n'est pas d'une grande violence chez moi en réalité. La morale, c'est pour mes proches, c'est pour moi, c'est pour mes proches, mes enfants, les gens que j'aime. Voilà, ça n'a aucune vocation à aller interférer sur le choix d'un homme qui décide, par exemple, de dire qu'il n'est pas coupable s'il l'est. C'est d'ailleurs souvent la dernière liberté qui lui reste.
Mais vous, de mettre tout votre talent pour aller dans ce sens et peut-être le laisser en liberté.
Oui.
Alors que...
Mais moi, je dis seulement, il n'y a pas de preuve. Mm-hmm. Et ça me suffit. Ça me suffit comme ça suffisait à Voltaire, qui est allé se réfugier chez vous, d'ailleurs, en Suisse, et qui a écrit qu'il valait mieux laisser 100 coupables en liberté que de détenir un seul innocent.
Alors, ces vrais mots sont, il vaut mieux hasarder de libérer un coupable que de condamner un innocent.
Comment vous savez que ce sont les vrais mots ?
Parce que j'ai retrouvé le texte. C'est dans Traité sur la tolérance.
Et il n'y a qu'un texte.
L'idée...
Non, il me semblait, moi, que c'était à propos de l'affaire Callas.
C'est ce
qu'il avait exprimé, ça.
Oui, oui. C'est juste dans une sorte l'idée de est relativement chronique. La même. Si ce n'est que lui, il parle d'un condamné en liberté pour un innocent.
Alors, pardon pour cette immodestie que vous me suggérez d'une certaine façon, mais moi, je préfère 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Même 1000. Parce qu'on ne transige pas sur ces règles-là.
Vous comprenez que c'est discutable ?
Non.
Vous ne comprenez
pas ?
Je
comprends qu'on le discute,
oui.
Mais ça n'est pas discutable.
Mettre 100 serial killers en liberté pour ne pas avoir un innocent en prison, rationnellement, c'est acceptable.
Mais tout dépend
et vous défendez
si vous privilégiez l'ordre ou la justice. Souvent, les juges préfèrent l'ordre et moi, je préfère la justice. Et alors,
mais n'est-ce pas injuste, de laisser 100 serial killers dans la liberté ?
Non, mais alors pourquoi 100 serial killers ? Évidemment,
alors,
là, vous
sans,
y allez à la
sans,
tonne, sans,
assassin.
Sans nuance.
Oui. Bah, alors quelle nuance vous voulez qu'on
non,
applique ?
C'est bien, vous pourriez dire 100 voleurs de pommes.
Mais
vous comprenez, tout est une question de présentation.
Bien sûr.
Évidemment, si vous dites l'auditeur, là, je l'imagine, il conduit tranquillement sa voiture, il va au bout, il dit quand même sans serial killer, parce que quand même cet avocat, il exagère. Si vous dites sans voleur de pommes,
il exagère aussi, parce qu'en effet, pourquoi condamner un voleur de pommes ? On va peut-être trouver un juste milieu entre les deux.
Mais parce que le vol est un délit, enfin, quand même.
Mais qui est puni pour voler une pomme aujourd'hui ?
Ah, malheureusement, on punit en France parfois une femme qui a volé une entrecôte pour nourrir sa famille.
Oui, je sais, ça reste des exceptions. Et c'est, vous ne défendez pas que des voleurs de pommes, que
j'entends
sache.
Bien, mais je ne défends pas non plus que des serial killers.
Non, il y avait un jeu d'échecs tout à l'heure. C'est une conversation, c'est un échange.
Je vais vous dire un truc. Il y a les principes, il y a la façon dont on est amené à les vivre. Moi, dans ma carrière, je n'ai jamais été amené à défendre un homme serial killer dont je puisse penser qu'il est serial killer et dangereux et obtenir son acquittement, jamais. Et d'une certaine
façon,
vous
pourriez le faire, vous ne le feriez pas.
Ça ne s'est pas posé.
D'accord.
Mais ne transigeons pas trop sur les principes parce que les petits abandons, vous le savez, entraînent les grands. Mmh. Et il faut réaffirmer ces choses. Les mots sont pacificateurs. Plus on a de mots, plus on peut exprimer de choses nuancées, et donc de choses intelligentes, ce qui n'exclut pas parfois de dire des conneries. Mais en tous les cas, la vertu du mot, c'est de pacifier les choses. Et quand on n'a plus de mots, on quitte la conversation pour aller vers l'agression parfois.
Éric Dupond-Moretti, parmi les rencontres importantes de votre vie, il y a Alain Furbury, oui, l'avocat toulousain. Il m'a appris à cultiver l'insolence. Un avocat qui ne serait ni insolent ni impertinent ne serait pas un avocat. Votre insolence, votre impertinence, on l'entend lors de vos plaidoiries, on peut la lire aussi. J'en souris d'avance parce que je pense à un de vos livres dans lequel vous avez publié votre réponse par courrier adressée à Bernard-Henri Lévy suite à un papier qu'il avait signé dans Le Point au sujet d'une interview sur France Inter sur le procès d'Abdelkader Merah. Et après avoir argumenté avec calme et précision, vous terminez votre lettre en ces termes. Le 3 mai 1936, Magritte a écrit au critique Dupierroux qu'il n'était qu'une vieille pompe à merde. Je n'ai hélas ni le talent ni l'audace de Magritte. Veuillez croire monsieur en l'assurance de mon exacte considération. Moi, ça me fait sourire, vous.
Moi aussi, moi aussi.
Je ne voyais pas sourire.
Si, non, si, si. Mais il y a un autre passage qui me paraît important, c'est que il me donne des leçons dans, bon, d'ailleurs, il se mêle d'un truc, on ne sait pas d'où ça sort. Il avait besoin de médiatisation à ce moment-là. Il n'a pas suivi le procès. Il n'est jamais venu. On ne l'a jamais vu. Et puis il sort cette espèce de truc là dont il a le secret. Il le fait avec beaucoup de talent parce qu'il écrit bien. Et là, il me parle de droit de la défense et je lui suggère d'aller relire Botule. Vous savez, Botule, c'est cet homme qui n'a jamais existé, philosophe de profession, inventé par des journalistes du Canard Enchaîné. Et le grand BHL a dit qu'il avait assisté à une conférence de Botule et même qu'il avait lu un de ses ouvrages. Tout le monde l'a oublié, ça, hein. Voilà le grand intellectuel. Moi, je lis pas beaucoup, mais au moins je lis des auteurs qui existent. Voyez-vous ? Donc je lui redis ça aussi dans la lettre. Ça l'a un peu calmé.
Vous êtes un bon vivant, Éric Dupond-Moretti. Vous aimez aussi le bon vin.
Oui.
Vous avez dit que le vin est un désinhibiteur, oui, un révélateur du véritable tempérament des êtres.
Oui.
Que révèle-t-il de votre tempérament ?
Que je suis un type plutôt... Je vais choisir un mot du sud, bonnard. Non mais
vous avez l'alcool plutôt
totalement gay, ouais.
Plutôt
totalement
gay, joyeux,
affectif, amical, convivial, amoureux parfois, oui.
On va rester mais en musique dans des effluves d'alcool avec une chanson que vous aimez beaucoup par une chanteuse que vous aimez. Voici Si tu me payes un verre par Isabelle Boulay.
Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne, je ne te dirai rien, je te contemplerai, nous dirons quelques mots en prenant nos distances, nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra, j'entrerai dans ton jeu. Je saurai sans effort me mettre à ta portée, je réinventerai des sourires de gamin, j'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes, je te les offrirai en te serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas, comme lui je dirai de vérité première. Il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a, et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas, de n'être rien du tout, je ne suis rien qui vaille. Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout. Tu seras mon ami au moins quelques secondes. Nous referons le monde aussi en mais debout. Heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et qu'on s'en porte bien. Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde. Alors paye ton verre et je t'aimerai bien. nous serons les cocus les plus heureux du monde.
Éric Dupond-Moretti, on continue, on va conclure notre conversation, on est dans votre bureau, dans votre cabinet parisien. S'il y avait un objet auquel vous tenez particulièrement ici, dans cette pièce, lequel serait-ce ?
C'est ce qui est derrière vous, c'est un paravent japonais.
Accroché au mur.
Oui, sur lequel sont représentés des oiseaux de fauconnerie. C'est un cadeau qui m'a été offert il y a longtemps par un garçon que j'aimais beaucoup et qui a été acquitté, pour tout dire les choses. Et je suis très attaché à cet objet.
Vous avez une vision assez critique de notre société. Vous l'écrivez, que vous trouvez aseptisée, conformiste, hygiéniste, hyper-puritaine, uniformisée, étranglée par le principe de précaution, oxydée par les tyrannies de la norme, de la transparence et du politiquement correct. Et puis on l'a entendu lors de notre conversation. D'où viennent ces dérives, selon vous ?
Des États-Unis.
Non, mais alors, c'est qu'une blague ou ?
Non, c'est pas qu'une blague, c'est... C'est un échappatoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a deux choses que je ne sais pas. C'est d'où ça vient et comment on l'arrête.
Ah, c'était ma deuxième question, ça tombe mal.
Ah ben vous voyez, on va faire deux en un. En revanche, je fais le constat.
Ouais.
Quels sont les ferments de cela ? Qu'est-ce qui a fait germer tout ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on en est ? Alors, il y a quelques éléments de réponse. Par exemple, le terrorisme. Qui nous a endeuillés, qui nous fait un mal de chien, entraîne les gens à préférer aujourd'hui la sécurité à la liberté. Mais il n'y a pas que ça. Et la dérive était déjà... Ça a renforcé les choses. Mais la dérive était amorcée déjà, cette espèce de puritanisme d'époque impudique où les juges, les journalistes, enfin certains journalistes et certains juges, pour être très précis, exige la transparence, une époque dans laquelle le secret devient suspect, le jardin secret, n'en parlons pas. Et tout ça est lié, et même ces émissions dont on parlait il y a quelques minutes, on dévoile tout, et on dit tout, et on s'exhibe, etc. D'où ça vient, je sais pas. Mais ça confine aujourd'hui à une espèce de confiscation de la pensée, l'interdiction de dire un certain nombre de choses, la réduction d'ailleurs du vocabulaire même. Je pense par exemple à mon oncle de Jacques Tati, qu'on représente aujourd'hui un ventilateur dans la bouche au lieu d'une pipe. Il n'y a pas un mec qui fume un ventilateur. Malraux, Camus, sur les photos officielles, privés de leurs cigarettes, comme à l'époque des Stahl. C'est insupportable, cette espèce de truc-là... d'où ça vient ? Oui, je pense que ça vient des États-Unis, mais vous attendiez sans doute une réponse plus sociologique, plus explicative. Je suis incapable de la fournir, je sais pas. Et je me pose très... C'est curieux que vous me la posiez, je me la pose très très souvent. Je me dis, mais comment on en est... Ouais. Pourquoi on en est arrivé là ? J'ai pas de réponse. Et j'en suis navré.
La plus belle conversation de votre vie, c'était quand et avec qui ?
Non, c'est impossible de répondre à ces choses.
Il y en a une qui vous est venue en tête quand je vous ai dit ça.
Je pense que c'est une question dont vous savez avec une forme, vous la posez avec une forme de perversité parce que vous savez qu'on ne peut pas y répondre.
Absolument pas, parce que c'est la dernière question de l'émission que je pose à chacun des invités.
Ah
il y a
oui.
Toujours eu une réponse
vous
jusqu'à aujourd'hui.
Habituellement perverse.
J'ai jamais pensé qu'il y avait une perversité. Les invités le sont parce qu'ils
répondent. Ils répondent.
Oui, ils ont toujours une petite.
Ils choisissent une conversation.
Oui.
En disant, c'est celle-là qui est... Non, mais c'est
la première
c'est
qui
un
leur
peu faux cul comme réponse. Vous voyez, ouais.
Non, la première qui vient, souvent, ça peut être une récente ou une vraiment importante.
Mais c'est pour pallier le silence,
avec
là.
Avec quelqu'un d'important ou qui... Oui, quelques-uns disent, bien sûr, celle-ci. Ce qui est pas intéressant comme réponse. Mais non, par exemple...
Ah oui, j'y pensais pas. Ouais, celle-ci, oui, vraiment. C'est la conversation que je retiendrai.
Ça, c'est pervers.
Et au moment de fermer les yeux, Je vous verrai tous les deux me posant cette question et je me verrai y répondre.
Ça, c'est vache. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai posé une question qui correspond à ce que vous avez noté sur votre papier en tout début d'émission?
Non, pas du tout.
Vous voulez nous en parler ou pas? Du coup, c'est pas nécessaire ou?
Non, il y avait tout à l'heure dans ce que j'ai entendu cette histoire d'équitator là,
oui.
Un peu à l'américaine, Terminator, ouais. Voilà. Donc j'avais nausé ça, puisque en réalité, à l'origine, c'était quelque chose de plus hispanique, puisque c'était Aquitador qui a été transformé ensuite. Voilà, je m'étais dit, bah, si on me pose la question, je répondrai spontanément avec ce petit mot ce petit mot sous les yeux. Spontanément dans la préméditation, voilà. C'est ça.
Merci beaucoup, merci infiniment pour cette conversation avec Dupond-Moretti. Je rappelle votre actualité, c'est votre seule en scène à la barre. Vous tournez actuellement et depuis quelques mois et vous serez à Lausanne le 8 et 9 février. Je propose de clore cette conversation en musique avec Chet Baker et Goodbye.
Les mots sont pacificateurs. Plus on a de mots, plus on peut exprimer de choses nuancées. La vertu du mot, c'est de pacifier les choses. Et quand on n'a plus de mots, on quitte la conversation pour aller vers l'agression parfois.
Venez d'écouter la dernière émission de La Conversation aujourd'hui avec Éric Dupond-Moretti. Un énorme merci à Alexandre Lemierre pour notre complice collaboration, pour sa réalisation de toutes ces émissions et la pertinence de ses portraits sonores. Si vous souhaitez réécouter cette série de 40 conversations diffusées durant toute l'année 2019, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous dis à très bientôt, peut-être dans la radio ou bien ailleurs. Bel après-midi à l'écoute d'Espace 2.
Le 18 juin 1967, le quartet de Charles Lloyd clôturait sur la scène du casino le tout premier festival de jazz de Montreux, initiant un rendez-vous estival qui allait devenir mythique. La RTS et le Montreux Jazz Festival vous proposent de revivre ce concert-événement dans un triple album vinyle, dernier né de la